Bonjour, je suis Michel Soyer, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui en direct dans notre studio de Paris avec mon invité qui s'appelle Corentin Kido, dans le cadre de cette émission, le Florilège des Arts et de la Culture, dirigé par Nicolas Stocker. Alors, dans le monde du luxe, dans le monde de la joaillerie, il y a des stars, des gens qu'on connaît, des signatures, des marques, mais il y a surtout des gens derrière qui créent, qui recrutent, qui dirigent, qui choisissent. Et Corentin Kido est véritablement un expert de la haute joaillerie. Il a été chez Cartier Joaillerie International pendant une vingtaine d'années, je crois. Et aujourd'hui, il a, quand on regarde son CV, c'est très impressionnant. J'ai la brillance, sans faire de mauvais jeu de mots, puisqu'il a travaillé pour comme thérapeute de marque pour des grandes maisons comme Boucheron, Gucci, Messica. Et puis, il a un côté chinois dont on va parler énormément. Et il dirige, dans le cadre de l'Union française de la bijouterie joaillerie, des rencontres internationales et qui permettent, dans le cadre de ces précieuses confluences, de mettre ensemble un petit peu les professionnels. Alors, moi, première question, Corentin, d'abord bienvenue, mais qu'est-ce que c'est ta profession? Parce que quelque part, dans le monde de la mode, on connaît les créateurs, on connaît les marques, on connaît Vuitton, on connaît Cardin, on connaît Carven, on connaît toutes les nouvelles marques. Mais la joaillerie, finalement, sur un bijou, il n'y a pas de logo. Donc comment est-ce qu'on reconnaît la signature, la patte, et quel est ton travail derrière le créateur pour pouvoir le lancer et qu'il crée sa clientèle?
Oui, merci, bonjour et merci de me recevoir. Oui, en effet, c'est une définition un peu généraliste que celle de thérapeute de marque, mais c'est un métier qui donc signifie plusieurs choses. À partir du moment où on est thérapeute, eh bien, on accompagne un corps social ou un corps individuel dans ses différentes déterminations, que ce soit en termes de croissance, que ce soit en termes de décroissance. Vous pouvez avoir dans ce domaine-là des crises qui sont des crises physiques, vous pouvez avoir des crises d'identité, vous pouvez avoir à un moment donné des crises de croissance qu'il faut savoir maîtriser, vous pouvez avoir à un moment donné des crises de décroissance, j'appellerais ça quelques maladies qu'il faut réussir à soigner. Et donc, dans une certaine mesure, enfin, mon métier consiste aujourd'hui à accompagner ces corps sociaux que sont les marques, à les accompagner dans leur développement, à les accompagner dans leur crise identitaire ou à les accompagner au contraire dans leur crise d'affirmation et dans leur naissance. Donc voilà ce que signifie thérapeute de marque. Alors sur quoi est-ce que cela se fonde? Ça se fonde sur une expérience que j'ai en effet acquise depuis maintenant plusieurs décades. Je n'en donnerai pas le nombre parce que j'ai une petite coquetterie en matière d'âge. Mais c'est un métier, d'ailleurs, le métier de la joaillerie qui est très, très intéressant parce que c'est un métier qui est un métier dans lequel la seniorité est une qualité, qui est une qualité qui non pas vous conduit à l'élimination de l'activité sociale, matérielle, intellectuelle ou spirituelle, mais qui au contraire renforce l'activité que l'on peut avoir. Aujourd'hui, la joaillerie est un métier qui valorise l'ensemble des valeurs humaines et des valeurs sociales et qui les valorise dans la continuité et dans le temps. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Moi, j'ai accompagné toute une partie de la construction de la joaillerie chez Cartier au XXe siècle, de 1980 à 2000. Et puis, à l'aube du XXIe siècle, je me suis dirigé toujours dans le domaine de la joaillerie vers d'autres marques. J'ai travaillé pendant 4 ans avec Bulgari et puis j'ai d'autre part développé en effet différentes activités avec des marques qui aujourd'hui sont devenues bien évidemment des marques assez importantes et plus qu'importantes, des marques extrêmement significatives. Donc aujourd'hui, si je devais revenir sur cette définition de mon métier, cela signifie que par exemple, j'accompagne des marques dans leur naissance et dans leur développement, c'est ce que j'ai fait avec la marque Messica. J'accompagne aussi des marques dans l'évolution du marché de la joaillerie, dans leur, non pas seulement leur repositionnement, mais tout simplement la façon d'embrasser des nouvelles activités dans le domaine du luxe. Parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, on parle d'une industrie du luxe, mais disons au début des années 80, il ne s'agissait pas d'une industrie du luxe, il s'agissait dans le domaine de la joaillerie d'une activité artisanale, d'une activité exercée par des créateurs solitaires ou par des créateurs qui petit à petit construisaient leur identité. Et par exemple, pour une marque comme Cartier, qui était en évolution et révolution depuis, disons, le début des années 70, quand la marque a été rachetée par un pôle dirigé par Alain-Dominique Perrin, Joseph Canoui, et le propriétaire était Robert Rock. Depuis cette époque-là, il y a eu une évolution, une révolution dans ce domaine-là. Donc, moi, ce que j'ai fait chez Cartier, c'est tout simplement, j'ai accompagné cette évolution dans le domaine, d'une part, de la transformation d'une marque et de son positionnement comme une marque joaillière, puisqu'aujourd'hui, Cartier est la marque la plus globale, je dirais, dans ce domaine-là, à l'échelle internationale, de mon point de vue, bien évidemment, c'est une opinion qui n'engage que moi. Et aujourd'hui, pour poser les fondements de ce que sont les fondements de la joaillerie contemporaine, c'est-à-dire, d'une part, les stratégies qui sont les stratégies de collection thématique, qui aujourd'hui sont le béaba du développement de ce que peuvent être les marques de joaillerie, mais qui, à l'orée des années 80, était véritablement quelque chose qui était en gestation et qui était relativement peu connu. D'autre part, la mise en place de ces stratégies, disons, de collection thématique, s'est accompagnée aussi de la multiplication des pièces de joaillerie et de leur accès à des couches sociales qui étaient émergentes. C'était en France l'époque où se constituait une couche moyenne importante, où il y avait une augmentation du pouvoir d'achat, où il y avait surtout l'accès aux femmes aussi de façon indépendante au marché de la joaillerie et au marché de la bijouterie. N'oublions pas que de mémoire, c'est seulement dans les années 74 que les femmes en France ont eu le droit de pouvoir signer seules un chèque et de pouvoir acquérir par elles-mêmes. Donc, en fait, la bijouterie et la joaillerie aujourd'hui, c'est un marqueur, c'est un accompagnateur social de ce que peuvent être aujourd'hui l'évolution et la révolution des différentes de la société. Et donc, qu'est-ce que fait un thérapeute dans une certaine mesure? C'est suivre ce que peut être l'évolution, la révolution d'un corps physique ou d'un corps social. Donc ça peut être la naissance, je dirais, de nouveaux horizons, c'est ce qui se passe avec Cartier dans le domaine de la joaillerie. Ça peut être la naissance d'une nouvelle marque, c'est ce qui s'est passé avec Messika. Et ça peut être aussi la façon d'accompagner aujourd'hui, ces nouvelles individualités qui se constituent à l'échelle mondiale, que sont aujourd'hui les marques indépendantes et les marques de créateurs. Tout cela étant porté par une évolution globale, bien évidemment, et l'évolution globale se situe à deux niveaux. D'une part, compte tenu de l'accroissement général des richesses, l'accroissement du marché du luxe. Ce marché est un marché qui s'est multiplié de façon, qui a cru de façon extrêmement importante au cours de ces 20 dernières années. Et d'autre part aussi, au fait que le marché mondial croisse, c'est une très bonne chose, mais que la France puisse, dans le domaine du luxe et dans le domaine de la joaillerie en particulier, occuper une place très spécifique et occuper une place qui est maintenant devenue une place majeure, c'est aussi quelque chose de très important. Et aujourd'hui, je peux dire que au cours de ces dernières décades, la France a su se constituer, et qualitativement et quantitativement, une place de choix dans le domaine de l'industrie du luxe.
Alors, pour bien comprendre ton intervention, donc, c'est du marketing, la compréhension des marchés, la compréhension de l'avenir que tu bâtis, mais est-ce que ça va jusqu'à le recrutement des artistes, le recrutement du personnel, le choix des pierres, le choix du travail, du joaillier? On va dans la fabrication ou tu es essentiellement sur l'orientation générale de la maison?
Non, justement. Justement, c'est une activité, l'activité que j'ai est une activité qui est une activité à 360 degrés. C'est une activité que j'ai construite au cours de mon expérience chez Cartier. Quand du département joaillerie, où il y avait 14 personnes à l'orée des années 80, on est passé le quartier joaillerie international en 1988, et que donc, de ce point de vue, l'activité quartier s'est déployée dans tous ces domaines-là. Et au sein de cette unité qui s'appelait quartier joaillerie international, dont j'avais avec une personne dont on parle peu, mais qui est une personne fondamentale dans ce métier qui s'appelle Micheline Canoui, c'était une activité qui est à 360 degrés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille sur des problématiques de vision, des problématiques de mission pour une marque. Je travaille sur l'expression et la traduction de cette vision et cette mission en éléments marketing. par rapport à ce que peuvent être les différentes tendances qu'il faut pouvoir exprimer dans quel domaine. Je travaille ensuite, c'est un véritable mécano, je travaille ensuite sur sur l'expression esthétique de ce que peuvent être ce différent positionnement marketing. Puis cette expression esthétique se réalise donc à partir de dessins, ça se réalise à partir de sketch, donc ça se réalise à partir de recrutement de designers. Puis l'expression de ces dessins se manifeste par, bien évidemment, les activités de fabrication, donc cela signifie une intervention dans le domaine de la fabrication, dans le domaine de la réalisation, et une fois que tout cela est fait, il faut bien sûr que faire connaître tout ce savoir-faire en termes de faire savoir. Donc cela signifie intervenir aussi sur les stratégies de communication, sur la stratégie d'identification et de détermination de ce que c'est qu'une identité de marque, et la façon dont elle va réussir à s'exprimer avec les outils de communication, et suivre bien évidemment l'évolution de ces outils de communication, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans un stade avec les réseaux sociaux où des marques émergentes, des marques avec relativement peu de moyens en termes de communication, peuvent néanmoins avoir une exposition qui est, disons, exponentiellement très importante comparée à ce qu'elle était il y a une dizaine d'années. Puis ensuite, en effet, pour pouvoir boucler la boucle, une fois que ces opérations de communication sont réalisées, il faut bien évidemment voir quel est l'impact que cela peut avoir du point de vue du développement de la marque, de la façon dont ces fondements financiers, ces fondements en termes de structure et ces fondements en termes juridiques peuvent ensuite se manifester. Donc ça signifie aussi une intervention sur ces sujets-là. Et pour pouvoir terminer, pour pouvoir boucler la boucle, la façon dont aussi la marque manifeste son existence, que ce soit à travers un réseau de boutiques, que ce soit à travers un réseau de distribution, que ce soit à travers des événements, que ce soit des événements culturels, puisque aujourd'hui la joaillerie est une activité totalement transversale qui embrasse tous les territoires de la culture, qu'il soit dans le domaine artistique, qu'il soit dans le domaine cinématographique, qu'il soit dans le domaine musical, dans tous ces domaines-là, afin de pouvoir finalement boucler la boucle avec l'expression disons, des valeurs qui ont voulu être communiquées à travers ce départ de « voilà, j'ai une idée, enfin, pour le créateur, je voudrais que cette idée prenne corps, je voudrais que cette idée puisse s'exprimer, quelles sont mes valeurs en termes esthétiques, que ce soit des valeurs conservatrices, que ce soit des valeurs traditionnelles, que ce soit des valeurs classiques, parce que je ne veux travailler qu'avec du précieux, ou que ce soit des valeurs qui peuvent être des valeurs qui transgressent les codes en matière de fabrication, qui transgressent les codes en matière d'esthétique, et pour finalement, pour que cette boucle de 360 degrés soit soit fermée entre le début de l'intuition, disons humaine, en termes de créativité, puis sa manifestation, que ce soit en termes de création, en termes de fabrication, en termes de communication, ou en termes de réalisation, disons, d'un corps social productif, donc qui puisse être vivant et qui puisse prospérer et qui puisse, à un moment donné, être habité par la pérennité, pouvoir se développer. Prenez une marque comme Cartier, par exemple, a été fondée en 1847, et aujourd'hui, c'est une des marques qui domine le marché de la joaillerie. Vous prenez une marque comme Messica. Elle, Messica, a été fondée à l'orée des années 2000. Et aujourd'hui, est une marque aussi qui a dû, dans une certaine mesure, exprimer un nouvel art de vivre dans le domaine de la joaillerie.
Alors concrètement, que l'on comprenne, on rentre du Festival de Cannes, alors on apprend que certaines stars vont monter les marches, payer 150 000, 200 000 euros, 300 000 euros pour faire des photos. La haute joaillerie, c'est un objet qu'on a dans le creux de la main, qui reste très mystérieux par rapport à une robe ou une voiture de luxe. Qu'est-ce qui va concrètement aller dans le sens que tu décris, c'est-à-dire il y a des pierres, il y a un montage, il y a un travail derrière. Comment, avec un petit exemple par exemple, on pourrait dire une marque va exprimer sa partie culturelle et se différencier de sa concurrence et correspondre à un besoin de marché. Très concrètement, tu interviens sur quoi ?
Sur plusieurs sujets. Tout d'abord, aujourd'hui, à partir du moment, disons, le produit qui est un produit fini, disons, prenons, je ne sais pas moi, une pièce. Moi, j'ai travaillé par exemple sur une marque qui s'appelle Canati, qui était une marque du Bahreïn, pour pouvoir construire des montres et des bijoux qui sont à la fois des œuvres d'art. Ou à l'heure actuelle, je suis en train de travailler sur une marque qui est fondée par les descendants d'un des plus grands horlogers en France, qui a été l'horloger Louis XVI, s'appelle Le Pôtre, par exemple. Prenons ces différents sujets-là. Pour pouvoir, il faut savoir qu'en effet, derrière où Cartier a présenté, par exemple, une collection phénoménale à l'occasion du Festival de Cannes, Van Cleef vient de sortir avec une collection qui est une collection égyptienne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, disons, ce que sont ce qu'est la, disons, l'éclat des présentations à l'occasion de ces différents événements, il y a derrière, en fait, toute une activité qui est une activité exceptionnelle et qui est une activité extraordinaire d'un point de vue humain. Pour pouvoir arriver à ce qu'un bijou puisse aujourd'hui s'exprimer, que ce soit dans une marque comme Messika, que ce soit une marque comme Cartier, que ce soit une marque comme Van Cleef, ou que ce soit dans des marques individuelles, parce qu'aujourd'hui cela prend une importance très importante, une marque comme Lydia Courtel, une marque comme Elitop, une marque comme Dinvan, une marque comme Thierry Vendôme. Il y a aujourd'hui un foisonnement de l'ensemble de cette activité créative indépendante. Il y a derrière tout cela un travail qui est un travail extrêmement important et qui mobilise en France des quantités très importantes dans le domaine de la fabrication, dans le domaine de la main-d'œuvre, dans le domaine de la transmission du savoir-faire et dans le domaine économique. Aujourd'hui, il faut savoir que la France, derrière toutes ses activités dans le domaine des pierres, derrière ses activités dans le domaine de la fabrication, derrière ses activités dans le domaine de la création, il y a un énorme et un vaste écosystème planétaire qui permet de pouvoir réaliser l'ensemble de ces chefs-d'œuvre et l'ensemble de ces pièces et l'ensemble de ces objets d'art. C'est un vaste écosystème planétaire, d'une part du point de vue de la façon dont aujourd'hui les pierres sont approvisionnées, que ce soit les pierres de couleur dans le domaine en Afrique, que ce soit des pierres de couleur en Asie, et la façon dont aujourd'hui se manifestent, que ce soit des pierres de couleur dans le domaine l'Amérique latine, Brésil ou Colombie, par exemple. J'ai travaillé pendant quelques années avec la marque qui s'appelle la marque Mouzeau. Les émeraudes de Mouzeau étant les émeraudes les plus précieuses au monde. Donc, l'ensemble de il y a toute une activité qui est d'abord une activité qui est une activité qui nourrit l'activité humaine dans le domaine de la production de ces composants. Et cela s'exprime, par exemple, par un système de foire qui se développe à l'échelle internationale, dans lequel, afin d'aller de la mine au marché, il y a aujourd'hui, à l'échelle internationale, des réunions très importantes qui se produisent avec maintenant une fréquence assez importante, que ce soit sur le continent américain, que ce soit en Asie, etc. La foire de Hong Kong, qui se tient maintenant 3 fois par an, est une foire où l'ensemble de la profession se donne rendez-vous afin de voir ce qui peut exister en termes de développement. Vous prenez aux États-Unis une foire qui se tient en février à Tucson et maintenant qui s'est tenue, par exemple, le JCK qui s'est tenu là à Las Vegas, est aussi une foire extrêmement importante. Vous prenez en Europe une manifestation qui s'appelle J'aime Genève qui s'est tenue là, dans lesquelles cette communauté, en fait, la communauté joaillière se retrouve afin de pouvoir assembler les pièces de ce puzzle magique que constitue une pièce de joaillerie. Donc, dans ce domaine-là, c'est un développement de cette activité. Ensuite, il y a une chose qui est très importante, c'est la mise en œuvre de tous ces composants, si je puis dire, la mise en œuvre de ces pierres. Et comment j'interviens dans ce domaine-là? Bah, tout simplement, par exemple, aujourd'hui, en travaillant au développement de cet écosystème français de la fabrication à travers, par exemple, ces rencontres professionnelles qui s'appellent Précieuses Confluences et qui font que, disons-le, au cours de ces 2 dernières décades, l'écosystème français de la bijouterie et de la joaillerie, sous l'impulsion de, disons, plusieurs acteurs, 4 grands acteurs, s'est complètement transformé et a fait qu'aujourd'hui la France est devenue d'un point de vue et quantitatif et qualitatif le pays de l'excellence dans le domaine de la fabrication et dans le domaine de la création joaillière. Ça a été fait sous l'impulsion des marques, d'une part, qui, avec une formidable créativité et surtout un positionnement sur le marché mondial, ont permis que ce marché puisse croître et puisse se développer. Pour vous donner un exemple, en 2020, le marché des biens personnels était à 220 millions, aujourd'hui il est à 343 milliards à l'échelle mondiale, et le marché de la bijouterie et de la joaillerie, lui, est à 84 milliards. Donc, ça représente quelque chose qui est extrêmement important. Et la France a souci pour se positionner là-dedans, avec d'une part les marques, d'autre part, justement, le rôle d'une organisation, vous parliez des gens de l'ombre, en effet, des gens qui sont derrière le rideau et de ceux qui sont la véritable colonne vertébrale de ce métier, même s'ils sont les gens les moins connus. Mais l'Union française, par exemple, l'UFBJOP, l'Union française de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie des perles, un acronyme à la française, comme nous savons en créer, qui a été fondée en 1964, est aujourd'hui la colonne vertébrale qui rassemble la totalité du métier en France, les fabricants, les négociants en pierre, les marques, les designers, disons tout cet écosystème qui concourt à la réalisation d'une pièce de joaillerie et qui aujourd'hui est un facteur fondamental dans la structuration de ce métier par son action nationale et par son action internationale. Vous avez aussi, et il faut quand même le souligner, aujourd'hui une génération, depuis quelques décades, plusieurs générations d'hommes d'affaires et de visionnaires dans le domaine de cette industrie se sont levés. Donc, il y a traditionnellement, je ne prononcerai pas de mot anglais puisqu'il ne faut pas en prononcer, mais il y a traditionnellement un dénigrement qui est fait sur, le conservatisme de l'activité française, le poids des différentes législations, réglementations qui peuvent déposer. Il faut dire aussi qu'il y a un dynamisme phénoménal de tout un tas d'hommes et de visionnaires de cette industrie qui ont fait qu'il y a une génération de 200 à 250 visionnaires qui ont transformé cette industrie. Et qui ont fait, parce que c'est très important aussi, de cette industrie qui au départ, il y a de ça une vingtaine d'années, était sur un axe Paris-Lyon, une industrie qui est qui s'exprime à l'échelle de la France entière. Et je vais après ça détailler un peu ce que recouvre le terme industrie. C'est qu'aujourd'hui, cette activité qui, il y a 20 ans, était sur un axe Paris-Lyon, et aujourd'hui est une activité qui est une activité nationale, régionalisée, avec des pôles de fabrication extrêmement importants en Franche-Comté, extrêmement importants dans l'ouest de Paris. Et il y a aujourd'hui un axe qui va de Lille à Narbonne, dans le domaine de la production et du développement de l'activité joaillerie. Soit clair aussi, sous le terme industrie, j'englobe une activité qui est une activité extrêmement différenciée qualitativement. Et c'est aussi, une chose très importante sur l'impact positif aujourd'hui de la joaillerie en France. Cet impact positif, c'est le fait que la bijouterie et la joaillerie a su s'adapter à l'innovation, a su s'adapter à l'évolution des sciences et des techniques, et a su conserver et a su mêler de façon très importante et la tradition et l'innovation. Aujourd'hui, il faut voir l'activité de la joaillerie comme un écosystème global dans lequel chacune des parties concourt à la réalisation de ces chefs-d'œuvre qui, en effet, peuvent se manifester à Cannes ou peuvent se manifester aussi, par exemple, à l'occasion de la Mostra de Venise. Enfin, à l'occasion, là, de le mois de juillet, nous allons en avoir une démonstration très importante, puisque dans la semaine de la haute couture, maintenant, les présentations officielles des collections de haute joaillerie sont intégrées par les maisons, de la même façon que Chanel présente une collection de haute couture, Chanel présente une collection de haute joaillerie, les maisons comme Van Cleef présentent aussi leur collection, les maisons comme Cartier présentent leur collection, maisons comme Dior, et Dior a été un élément important de la révolution esthétique de la bijouterie joaillerie en France, avec le travail qui a été fait par Victoire de Castellane, va présenter à la fois une collection de haute joaillerie et une collection de haute couture. Il y a tout récemment la nouvelle directrice de la création vient d'être nommée chez la nomination officielle la nouvelle directrice de la création vient d'être annoncée là, chez Chanel, qui va encore augurer de très beaux développements. Tout cela fait qu'aujourd'hui, cet écosystème global est un écosystème qui recouvre l'ensemble des activités dans le domaine de la production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la joaillerie, ce sont des métiers d'art, ce sont qui se développent et qui prospèrent, et qui prospèrent parce qu'il y a une activité de formation qui est très importante en France. En France, il y a une école qui s'appelle la Haute École de Joaillerie, qui rassemble sur trois campus, Paris, Aix-en-Provence et Lyon, qui rassemble plus de 800 apprenants, afin de pouvoir transmettre les métiers de la main, que ce soit des métiers traditionnels, que ce soit des métiers manuels. Donc dans le domaine du poly, dans le domaine du certi, mais aussi dans le domaine du dessin assisté par ordinateur, de la conception assistée par ordinateur, et avec bien évidemment l'arrivée dans cet univers professionnel de l'inévitable intelligence artificielle. Voilà. Et la personne qui va prendre aujourd'hui la direction de la création chez Cartier s'appelle Marie-Laure Sérède. Elle est très, très, très compétente. Et elle va assumer je pense, très conséquente et très positive la succession d'un garçon qui s'appelle Patrice Le Guérot, qui a été l'un des grands directeurs artistiques de Managerie Chanel et qui a été formé dans. On parlait de recrutement tout à l'heure, mais par exemple, quand on a constitué le bureau de dessin chez Cartier, j'ai recruté Patrice Le Guérot pour faire partie du bureau de dessin chez Cartier.
Alors, je vois qu'effectivement, les chiffres sont plutôt significatifs, positifs de la haute joaillerie, la haute jo, mais quand on lit la presse économique, on a plutôt une alerte sur le marché du luxe en général, qui apparemment se porte globalement pas si bien que ça, puisqu'on a annoncé des toutes petites croissances, voire certaines décroissances sur certains marchés, notamment américains ou asiatiques, avec un certain repli chinois. Alors, comment se fait-il que la haute joaillerie soit en pointe, apparemment, d'après les chiffres que tu nous donnes, sur ce marché du luxe? Comment tu vois les choses?
Alors, il y a plusieurs choses. D'une part, il faut avoir, je pense, une vision globale et relative de ce que sont les différentes activités humaines. Aujourd'hui, le monde entier vit dans le domaine géopolitique, vit dans le domaine socio-économique, vit une situation qui est une situation difficile. Le fait que il y ait aujourd'hui des métiers comme ceux de la haute joaillerie, qui soient des métiers qui soient l'expression, l'une des expressions les plus élevées du savoir-faire et de la culture humaine, ne doit pas nous faire oublier, bien sûr, qu'aujourd'hui nous sommes dans une période de conflits à l'échelle, disons, de conflits régionaux mais mondialisés, si je peux m'exprimer ainsi, qui bien évidemment ont un impact très important dans le domaine économique et dans le domaine social, pas seulement dans le domaine du luxe, mais dans l'ensemble des autres domaines de l'activité humaine. On est aussi dans une situation dans laquelle il y a certains problèmes fondamentaux qu'il faut, je pense, souligner, de toute façon, sur cette population qui est près de 8 milliards d'habitants sur cette planète, de mémoire, même si ils ne sont pas exacts, il y a à peu près 1 milliard, 500 millions d'entre eux qui vivent avec 1 dollar par jour, etc., etc. Donc, dans ce domaine-là, c'est que ce soit clair, je pense que la haute joaillerie, c'est une des expressions les plus élevées du savoir-faire et de la culture humaine, tout comme la production artistique, tout comme la musique, tout comme la culture, et que c'est de ce point de vue quelque chose qui est indispensable à l'expression à son niveau le plus élevé de la beauté de ce que peut produire une société humaine, mais c'est quelque chose qui peut mettre aussi en perspective, je dirais, dans ce que peut être, disons, l'évolution de notre civilisation d'un point de vue global et d'un point de vue sociétal et d'un point de vue économique. Alors, pour revenir à l'évolution de ce qu'est le marché du luxe aujourd'hui, c'est public, hein, puisque les résultats viennent d'être publiés, mais un groupe comme Richemont, qui est en clôture annuelle de mars à mars, donc dans la clôture de son exercice de mars 2025 à mars 2026, le groupe Richemont a fait, que je regarde, 22,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ils sont à plus 11% en taux constant, Et ils sont à plus 5% à taux réel de croissance. Et leur dernier trimestre a été à plus 13%. Donc, aujourd'hui, il y a en effet, certaines difficultés à comprendre, l'inadéquation qui peut exister entre, enfin, ce qui paraît être l'inadéquation entre la déstabilisation, sinon, disons, les difficultés à l'échelle mondiale dans le domaine économique, politique, géopolitique et social, et la croissance et la performance des marchés du luxe. Il y a plusieurs choses. D'une part, dans le domaine du luxe, aujourd'hui, le segment, d'un point de vue général, le segment qui est le plus dynamique, c'est le segment de la joaillerie. Le segment constitué dans le domaine du luxe, dans le domaine de ce qu'on appelle la partie du luxe qui représente ce que l'on porte sur soi, cette partie de segment qui est celle qu'on appelle les biens personnels, c'est 358 milliards. Donc, maquillage, chaussures, enfin souliers, accessoires, etc., etc., etc. Dans ce domaine-là, la joaillerie représente 84 milliards. Bon. Donc, aujourd'hui, en effet, comment est-ce qu'on peut expliquer, si, d'une part, ou la croissance ou la solidité de ce marché? Il y a plusieurs facteurs. D'une part, il y a aussi des facteurs qui sont des facteurs d'évolution politique et économique. Aux États-Unis, certes, aujourd'hui, il y a certains aspects de l'économie aux États-Unis qui font qu'aujourd'hui, il y a un enrichissement qui est un enrichissement assez important de ce que peuvent être les couches les plus privilégiées. Et une partie du marché de la joaillerie est représentée par ceux-là même qui peuvent acheter ces pièces-là. Et soyons clairs là-dessus, il y a un cercle vertueux de la joaillerie qui fait que, certes, ce sont les couches les plus privilégiées qui peuvent les acquérir, mais par ce phénomène d'acquisition, cela permet à l'échelle mondiale de pouvoir développer une multitude d'emplois, de pouvoir développer et assurer le savoir-faire pérenne de métiers traditionnels qui se manifestent.
On fait une petite pause parce qu'on doit passer un bobino et on revient sur le sujet.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Alors justement, le marché américain a toujours été très leader et tu signales qu'effectivement il y a une nouvelle classe qui s'est enrichie. Alors est-ce qu'on parle des entrepreneurs de la high-tech, Silicon Valley, qu'on va trouver aussi à Dubaï, bien que Dubaï apparemment ait certains petits problèmes dans les malls aujourd'hui avec la guerre. Est-ce que c'est cette nouvelle catégorie de clientèle qui parfois n'est pas aussi cultivée que la précédente? Toi, je lisais tout à l'heure dans les Échos au week-end un sujet sur à Venise, Peggy Guggenheim et les gens qui suivent sa famille, qui ont été des investisseurs dans le monde de l'art. Ça, tout ça, c'est une catégorie de gens qui sont un petit peu disparus. Alors, est-ce que les nouveaux arrivants sont comment est-ce qu'ils comprennent la haute joaillerie? Parce que souvent, il n'y a pas cette base historique ou culturelle.
Alors, plusieurs remarques sont à faire. Je ne sais pas si je peux donner une explication sur ces territoires-là, mais il y a plusieurs remarques. D'une part, d'un point de vue macroéconomique, aujourd'hui, il y a un paradoxe dans ce domaine-là. Ce paradoxe est semblable à la paradoxe et à la complexité de la nature humaine. De façon assez paradoxale, l'évolution, par exemple, du cours du baril de pétrole, qui a été produit par la crise qui se développe au Moyen-Orient aujourd'hui, a fait qu'il a quasiment doublé en l'espace de 6 mois. Donc, vous comprenez bien qu'à partir du moment où il y a un tel surenrichissement, c'est le terme exact, de la part des pays des Golfes et de la part des différents régimes qui dirigent chacun de ces pays-là, ce sont bien évidemment des ressources qui sont des ressources complémentaires qui sont faites pour ce marché. Il y a en effet, dans nos États-Unis, d'une part, un dynamisme industriel et un dynamisme dans le domaine de la tech qui dégage aussi des ressources dans ce domaine-là. Il y a aussi, dans d'autres pays comme l'Asie, par exemple, avec d'une part le pôle Chine et d'autre part le pôle du reste de l'Asie, des fortunes très importantes qui se constituent. Donc, disons que de ce point de vue, il y a un enrichissement global qui profite au développement de ce que peut être ce segment du marché de la haute joaillerie. Il y a aussi, soyons clairs aussi, d'un point de vue là, une croissance de la richesse mondiale et une croissance, du taux de prospérité des couches qui sont les couches intermédiaires, qui sont les couches aujourd'hui des classes moyennes, qui aujourd'hui, petit à petit, accroissent leur pouvoir d'achat, ont accès de façon de plus en plus importante à ce que peut être le marché du luxe, et donc de ce point de vue, sont aussi des facteurs d'accroissement de cette activité. Donc ça, c'est quelque chose qui fait que aujourd'hui, il y a un accroissement, d'une part, du pouvoir d'achat des couches moyennes, et d'autre part, un accroissement du pouvoir d'achat des couches moyennes et une croissance exponentielle du pouvoir d'achat de certaines couches qui permettent de pouvoir, dans une certaine mesure, développer ce marché, qui est le marché de la haute joaillerie et qui est le marché de la joaillerie.
Mais est-ce qu'on parle des mêmes? Parce qu'il y a peut-être plusieurs capacités d'achat. Dans la haute joaillerie et dans la joaillerie, il y a quand même des marques avec des niveaux de prix très différents. Donc ces gens-là, est-ce qu'ils ont accès juste aux moyennes gammes? Et qui a accès maintenant aux très hautes gammes? Parce que bon, les pièces de haute joaillerie atteignent des sommes considérables.
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses dans ce domaine. C'est très difficile dans l'espace, en aussi peu de temps, de pouvoir dresser un tableau complet de ce que peut être dans le domaine, sans d'ailleurs prêter le flanc à la critique sur tel ou tel aspect qui aurait été plus ou moins bien décrit ou qui n'aurait pas été mis à sa place. Il y a plusieurs choses. D'une part, si vous voyez les résultats des ventes Christie's et Sotheby's qui sont tenus au mois de mai en joaillerie à Genève, il y a un diamant bleu de 4,3 carats, je crois, qui a fait 17 milliards, qui était chez Christie's. Donc, d'une part, il y a ce développement-là, et qui fait que, comme dans le domaine, je dirais, financier en général, une partie de ces pierres extrêmement rares ont acquis le statut de ce qu'on appelle, de commodities ultra nobles qui permettent d'en faire des territoires d'investissement. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, il y a une chose aussi qui est très importante. Il y a d'une part le problème de la demande et il y a d'autre part le problème de l'offre. Aujourd'hui, ce qu'il y a de phénoménal dans le domaine de la joaillerie, c'est que aujourd'hui, de $100 à $100 millions, vous pouvez avoir une offre qui est une offre qualitative, qui est une offre artistique et qui est une offre pensée, qui est une offre qui a du sens, qui est une offre qui a du sens et qui de ce point de vue fait que quel que soit votre budget, vous pouvez aujourd'hui acquérir des pièces de joaillerie qui soient significatives d'une réflexion artistique, d'une réflexion en termes de fabrication, une réflexion donc en termes d'aboutissement de l'activité humaine, si je puis dire. Donc ça, c'est quelque chose. Je sais pas, vous allez voir à Paris, rue du Montabaur, vous avez une boutique qui s'appelle White Birds, dans laquelle il y a le florilège d'une partie de créateurs internationaux qui vont de 500 à 2000 euros. Vous avez, ne l'oublions pas, quelque chose qui s'appelle chez Leclerc, le manège à bijoux, qui, mine de rien, avec des produits qui vont de 30 à 100 euros au prix de vente, qui sont des produits qui sont faits, ça représente de mémoire 33% de la consommation française d'or. Et tous ces produits-là, qui vont de 20 à 100 euros, sont des produits, je peux vous le dire, puisque ça, je connais ça de l'intérieur, avec le travail qui est fait par l'Union française, le contrôle qualité à la de Vinlec, l'or 18 carats, le fait que ce sont des diamants naturels, donc cette exigence de la part de ce groupe-là est une exigence phénoménale en termes de qualité. Donc, il y a, de ce point de vue, je dirais, et ça, je voudrais faire, je dirais qu'il y a, dans une certaine mesure, quel que soit le niveau de prix auquel cela s'exprime, quel que soit le niveau de sophistication en matière de réalisation, quel que soit le niveau de la valeur des pierres qui soient intégrées à chacun de ces produits, il y a toutes ces différentes catégories de joaillerie partagent des valeurs communes. Et ces valeurs communes, c'est fondé sur la qualité. Et c'est fondé aussi sur une responsabilité sociale et entrepreneuriale entrepreneuriale et environnementale dans ce domaine-là. Parce que ne n'oublions pas, il y a aujourd'hui une dimension sociale très importante dans ce domaine-là, qui se manifeste par exemple par le fait qu'il y a de ça maintenant 25 ans, les groupes à l'échelle mondiale se sont et toutes les marques à l'échelle mondiale se sont réunies dans une association qui s'appelle Responsible Jewelry Council et qui travaille en collaboration très importante avec les organisations professionnelles, avec les organisations gouvernementales, avec les organisations environnementales sur la traçabilité des matières premières, sur les conditions de réalisation sociale dans lesquelles elles sont extraites, sur l'ensemble de ce domaine-là. La joaillerie aujourd'hui, ce n'est pas seulement, les ors et les paillettes du Festival de Cannes, mais c'est aussi véritablement, à l'échelle mondiale, un travail de la part des marques, de la part des ateliers, de la part des négociants en pierre, très important dans le domaine d'inscrire cette activité dans le cadre d'un cercle vertueux destiné à, j'ose le terme, la prospérité des communautés professionnelles avec lesquelles elles travaillent. Vous prenez la création, vous rappelez de ce qu'on appelait à un moment donné les Blood Diamonds, il y a de ça 25 ans, ça a donné naissance à ce qui s'appelle le Kimberley Process, qui rassemble la totalité au niveau étatique, qui rassemble de mémoire, enfin, plusieurs dizaines d'institutions à l'échelle mondiale et qui ont aujourd'hui permis que tout un tas de directives nationales et internationales permettent et la mise en œuvre de protection environnementale et la mise en œuvre de protection sociale. Donc, c'est un très vaste écosystème et qui fait qu'à un moment donné, en effet, ce très vaste écosystème peut amener à la démonstration, je ne sais pas si vous avez sur Instagram, de ce que peuvent être les débauches de présentation de pièces comme le mariage Ambani, par exemple, la famille Ambani, avec une débauche de pièces qui sont manifestées. Maintenant, de ce point de vue, moi, je pense que la joaillerie peut être assimilée à une discipline artistique, à une discipline art décoratif, une discipline manufacturière, il y a une transversalité qui fait que cette appétence pour... en effet, il y a un renouvellement, que ce soit dans le domaine artistique, vous voyez ça, ce qui se manifeste aussi dans le domaine de l'art contemporain. En effet, il y a un renouvellement aujourd'hui, et je dirais c'est tant mieux, hein, quelle que soit la façon dont cela s'exprime en termes d'approximation dont les territoires esthétiques sont approchés. Mais aujourd'hui, il y a un renouvellement, en effet, je dirais, des consommateurs, des amateurs et des collectionneurs dans ce domaine-là. N'oublions pas que tout cela aussi fait que à côté de ces mouvements qui sont des mouvements qui se manifestent à l'échelle de la planète, que ce soit des mouvements en Corée avec la K-pop, ou que ce soit dans le domaine de l'art contemporain, ou que ce soit à côté de cela, tous ces mouvements-là permettent aussi de maintenir ce que sont, d'une part, les fondamentaux de ce que peut être aujourd'hui l'art de la joaillerie. Je prends pour exemple le fait que René Boivin, qui a été une des figures emblématiques de la création française, vient de renaître et d'ouvrir une boutique à côté boulevard de la Madeleine. Une internationalisation à côté de René Bovin, c'est un joaillier grec qui s'appelle Nikos Koulis qui s'est ouvert. Et donc, tout cela permet de maintenir et de développer et de pouvoir accéder à tous ces nouveaux primo-accédants, si je puis m'exprimer ainsi, permettent que puissent se maintenir. Et d'une part, la grande tradition de la joaillerie à la fois française et mondiale, et d'autre part, aussi l'innovation dans ce domaine-là. Aujourd'hui, la joaillerie contemporaine ne serait pas ce qu'elle est sans le travail qui a été fait dans la Silicon Valley et sans aujourd'hui le développement de logiciels qui permettent en dessin assisté par ordinateur, en conception assistée par ordinateur, en combinant cela avec l'activité manuelle traditionnelle, de créer des pièces d'une complexité qu'il eût été impossible de réaliser il y a une trentaine d'années. Donc, il y a, si je puis dire, là, c'est sur le territoire particulier de la joaillerie, mais je pense que vous rencontrez cela aussi sur tous les autres territoires, ce mouvement permanent entre innovation et tradition, entre, disons, les couches traditionnelles sociales et leur renouvellement dans le domaine de l'accès à tous les domaines, que ce soit de la culture, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine de la société.
Oui, alors c'est vrai, la joaillerie a quand même un aspect d'attraction politique, parce que au Louvre, on a volé les joyaux de la couronne, et de tout temps, les rois se mettaient des couronnes sur la tête, jusqu'à Napoléon lui-même. On portait des diamants, on portait, voilà, l'Angleterre de temps en temps expose la collection de la famille royale. Il y a une magie dans la haute joaillerie qu'on va peut-être pas trouver dans les accessoires de mode, ou même dans la haute couture, ou dans d'autres domaines de l'art contemporain, ou de l'automobile, ou de tout ce qu'on veut. Alors, effectivement, dans quelle mesure est-ce que cette magie-là, l'intelligence artificielle va être capable de la pérenniser et de donner envie à ces nouveaux arrivants, nouveaux entrants sur ce marché, eh bien, d'acquérir et d'avoir aussi un produit royal entre les mains?
Alors, vous avez raison d'utiliser le terme de magie. Mais je dirais même que c'est plus que magique. En fait, par rapport à tous les autres accessoires que vous avez pu citer, en effet, la joaillerie a cet aspect très, très, très particulier. C'est que, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voulez acquérir une pièce de joaillerie, quel qu'en soit le prix? C'est d'abord la notion de désir. Vous désirez quelque chose. Et c'est cette notion de désir qui permet, à un moment donné, de conclure, là, cet acte magique, en effet, qui consiste à acquérir de la part d'un inconnu, un objet que vous n'avez préalablement jamais rencontré. Bon, c'est quand même un acte assez magique que celui de la vente. Et dans ce domaine-là, il y aurait énormément beaucoup de choses à dire. Bien. Mais c'est plus que... En effet, la joaillerie, les pièces de joaillerie ont cet aspect irrationnel, ont cet aspect émotionnellement irrationnel, qui fait que acquérir une pièce de joaillerie, c'est, dans une certaine mesure, donner, concrétiser et symboliser, alors, un acte d'amour, un acte de rituel, un acte de célébration. Le caractère précieux des composants d'une pièce de joaillerie font que, dans une certaine mesure, ce que l'on acquiert, ça n'est pas le rassemblement de tous les composants matériels dont je viens de vous parler, mais c'est, dans une certaine mesure, une dimension, vous avez raison, magique, je dirais surnaturelle, je dirais émotionnelle, qui fait que aujourd'hui, quel qu'en soit le prix, acquérir, offrir une pièce de joaillerie, c'est dans une certaine mesure un acte magique de célébration. Vous avez raison, vous prenez par exemple aujourd'hui les maisons de vente aux enchères, comme Sotheby's, qui développent des ventes aux enchères sur... les sacs Hermès ou des trucs. Vous avez aujourd'hui des sacs qui valent 100 000, 200 000, 300 000, 500 000. Mais je pense que un sac de 500 000 ne remplacera jamais l'achat que vous pouvez faire ou vous voulez manifester à l'égard de la personne que vous aimez, la façon dont vous pouvez lui offrir une pièce de bijouterie, une pièce de joaillerie, quoi. Il y a cet acte magique, en effet.
Alors, Paris a repris le leadership mondial et on s'en réjouit. Merci de citer des ouvertures de boutiques. Mais je sais que tu as une activité importante en Asie, hein, puisqu'on s'est croisé sur un défilé de Chou Tai Fook qui était au Shangri-La. Actuellement, la presse nous dit effectivement, un article du Point qui dit « Et pendant ce temps-là, la Chine, trois petits points ». Donc, que fait la Chine en termes de haute joaillerie? Est-ce que la Chine est en train de nous damer un peu le pion, nous, Européens, ou est-ce qu'on va conserver cette avance historique que nous avons toujours eu?
Alors, il y a plusieurs choses. Est-ce que la Chine est en train de nous donner le pont sur ce territoire? La réponse est non. Bien. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une activité très importante dans ce domaine-là en Chine? La réponse est oui. Alors, maintenant, un peu d'expérience. Tout d'abord, n'oublions pas une chose, et ça, de ce point, on a un tribut à payer et à la Chine et aux pays en Asie. N'oublions pas qu'aujourd'hui, 40% du marché mondial du luxe est consommé en Chine, et consommé par des Chinois, que ce soit à l'intérieur de la Chine ou que ce soit par la diaspora chinoise. Donc, de ce point de vue, le luxe à l'échelle mondiale n'existerait pas si l'attractivité de la population chinoise pour le luxe n'existerait pas. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Ensuite, oui, aujourd'hui, comme vous le savez, il y a un mouvement qui est un mouvement dans lequel il y a le développement d'une fierté nationale sur tous les territoires, et en particulier dans le domaine de la création, dans le domaine de la production. Elle se manifeste à l'échelle mondiale dans le domaine de l'électronique, dans le domaine de technologie. On discutait tout à l'heure de la marque automobile. Oui. On discutait, vous prenez Lenovo qui a acquis IBM, vous prenez dans le domaine de la robotique les démonstrations qui sont faites dans ce domaine-là. Donc dans ce domaine-là, véritablement aujourd'hui, la Chine a une avance extrêmement importante. Dans le domaine de la création, dans le domaine... Alors aujourd'hui, l'un des groupes chinois les plus importants au monde, je crois qu'il est devant en termes de chiffre d'affaires ou à part égal avec Cartier en termes de chiffre d'affaires sur les bijoux, c'est le groupe qui s'appelle Chou Tai Fook, en effet, qui fait de mémoire 4 700 points de vente, qui fait quelque chose comme 16 milliards, quelque chose comme ça. Mais je pense qu'un groupe comme Chou Tai Fook aujourd'hui, avec qui j'ai collaboré et qui a un management phénoménal, dans l'équipe qui dirige Chou Tai Fook d'un point international économique extraordinaire, un groupe comme Chou Tai Fook, c'est beaucoup plus un énorme distributeur qu'un énorme créateur, pour résumer. Et donc, de ce point de vue, il y a encore un travail très important qui est à faire dans ce domaine. Le travail est très important, ils sont en train de le faire sur différents territoires. Tout d'abord, la réappropriation de savoir-faire des techniques traditionnelles chinoises dans le domaine du travail de l'or, dans le domaine du travail filigrane. Il y a tout un travail qui est fait par Chou Tai Fook, qui est fait par Lao Pu dans ce domaine, pour se réapproprier toute une partie de l'artisanat qui a été détruite pendant la révolution culturelle. Donc ça, c'est important. Deuxièmement, il y a en effet une volonté, je dirais, de compréhension de ce que sont les fondamentaux de la culture à l'échelle internationale. Ils ont intégré un directeur de la création dans le domaine de la haute joaillerie qui a une formation internationale. Ils ont dans ce domaine-là un certain nombre de choses à pouvoir développer. Cependant, aujourd'hui, leur orientation n'est pas, que je sache, hein, parce que je ne suis pas dans ces arcanes-là, de pouvoir développer aujourd'hui et de pouvoir exprimer la marque Chou Tai Fook, par exemple, la marque Lao Pu, à l'échelle mondiale en se développant, en adoptant ce que peuvent être des modèles qui sont fondés sur une chose. Aujourd'hui, là, je dirais que la suprématie, c'est pas le terme exact, mais disons le caractère exceptionnel de la création des marques d'origine française, c'est plusieurs centaines de siècles de culture dans ce domaine-là, puisqu'on va en parler tout à l'heure, et en particulier de culture inspiré par les différentes dynasties royales ou impériales, ou que sais-je encore, que ce soit à l'échelle de la France, que ce soit à l'échelle de l'Europe, même si de toutes les façons, toutes ces familles-là ensuite se mêlaient de façon joyeuse.
Très bien, écoute, merci beaucoup en tous les cas. Je pense que tu as été aussi brillant que les produits de ton marché. Et donc, ça va nous donner envie d'assister à la prochaine Fashion Week qui se prépare effectivement. Hier, on a eu la clôture du salon Préco, donc qui choisit les tissus. Car effectivement, dans le monde de la création, eh bien, ça démarre très en amont. Hein, très en amont. Et je me réjouis que l'intelligence artificielle qui... faut quand même rappeler que le mot intelligence en anglais, c'est le renseignement. Et que peut-être qu'elle est pas forcément intelligente, mais elle est forcément artificielle. Voilà. Alors, on n'a pas abordé le sujet des faux diamants, enfin des diamants artificiels, c'est encore un autre sujet. Mais en tous les cas, je crois qu'on a appris beaucoup grâce à toi et ça nous donne envie, effectivement, d'aller un petit peu du côté de la place Vendôme et dans les avenues parisiennes, rêver sur le scintillement de ces pièces qui sont quand même, je redis ce mot de magie, et on a toujours chanté que le diamant, c'est le meilleur ami de la femme. Hein. Donc, comme chantait... cette grande actrice américaine. Merci beaucoup en tous les cas, Corentin, et je rends l'antenne maintenant pour le direct sur Radio Courtoisie.
Vous venez d'entendre le Florilège des Arts de Michel Soyer, une émission diffusée en direct sur Radio Courtoisie le 12 juin 2026 de 10h à 11h, réalisée par Axel. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.